Chers amis de l'Institut des Libertés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave.
C'est moi.
Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une petite capsule, malgré le fait que Charles ait attrapé une très vilaine grippe.
C'est pas le Covid, mais c'est une grippe, je vous dis pas.
Et on sait que c'est une très vilaine grippe parce que figurez-vous que ma mère, Chantal Gave, donc la femme de Charles, ton épouse, a dû être hospitalisée cette nuit parce que sa saturation d'oxygène était descendue à 89 et qu'elle avait du mal à respirer. Et donc comme quoi, il y en a encore qui consomment de la bonne grippe française et qui vont pas vers cette saloperie chinoise importée. Et ça marche très bien aussi, on voit.
Si
Donc
vous l'êtes par terre, c'est très
si vous
bien
voulez
aussi.
par terre, n'hésitez pas. La grippe de cette année est de toute beauté. Elle vous envoie aussi bien à l'hôpital. Donc on n'est pas dans des super conditions physiques, mais vaillons. On va quand même essayer de faire une émission intéressante. Alors une émission intéressante sur quoi cette semaine? Vous aurez peut-être remarqué, si vous suivez un peu les marchés et si vous suivez l'actualité, les hausses des coûts énergétiques, tout ce qui s'est passé dans le domaine de l'énergie, aussi bien sur l'électricité, bon, le nucléaire, ça c'était encore un autre dossier, mais voilà, et sur le gaz. Donc il y a eu effectivement des répercussions sur les marchés financiers aussi, ce qu'on verra plutôt dans une seconde
Et ça ne fait
partie.
que commencer.
Et Charles pense que ça ne fait que commencer, avec évidemment à terme aussi des répercussions sur l'inflation, donc sur nos vies à tous. Vous remarquez, c'est pas comme si l'énergie, ça concernait pas nos vies à tous. Donc on a évidemment la présence du DAF aussi, qui est aussi Monsieur Énergie dans l'entreprise, je crois qu'on peut dire ça. Il y a une
C'est lui qui en
immense
dépense le
compétence.
moins.
Une immense compétence, du coup, de dépit, il va voir là-bas si j'y suis. Et il y était, voilà. Donc écoute, j'ai posé quelques questions sur le site. Et sur différents supports aussi sur Twitter. Alors, il y a plusieurs questions, mais on va commencer par celle-là. Dido te demande, la hausse du prix du baril a été l'un des déterminants du déclenchement de la crise des subprimes en 2007. Est-ce que tu penses que la hausse actuelle, donc des cours du brut, pourrait engendrer une purge des actifs pourris, enfin schumpeteriens en tout cas, et bon, ça, on va peut-être le voir dans un deuxième temps, mais est-ce que cet actif pourri ne serait pas l'euro? Ah,
Ah, deuxième question.
deuxième question qu'on
Alors,
verra peut-être dans un deuxième temps.
je vais essayer au départ de planter le décor un
Oui,
peu, ben
plantons le décor.
pour voir un petit peu comment ça marche dans la réalité. Vous avez des économies capitalistes, ou non d'ailleurs, qui toutes fonctionnent avec de l'énergie. L'énergie, comme je l'ai souvent dit ici, je crois d'ailleurs, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Bon. Le grand inconvénient de l'énergie, c'est qu'elle est ainsi faite qu'elle a un cycle de production qui est extrêmement long. Je m'explique, c'est-à-dire que si on réfléchit en termes énergétiques, il faut réfléchir avec des cycles qui sont de 30 à 50 ans. Se dire, je vois ce dont je vais avoir besoin dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, alors que le cycle capitaliste est plutôt 4-5 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ben, il se passe un phénomène qui était tout à fait prévisible, sur lequel j'ai longuement écrit d'ailleurs, et j'en ai longuement parlé avec tous mes clients. Pour des raisons que je n'ai pas à juger, mais mettons de pollution par exemple, on a décidé d'essayer de se passer des industries, des énergies fossiles dans l'avenir. Parce que qu'est-ce que c'était l'énergie? Dans le fond, ça a presque toujours été, d'une façon ou d'une autre, du soleil qui tapait sur des plantes, qui faisait du charbon, qui faisait du. Et puis ensuite, on récupérait 50 millions d'années, puis on le faisait cramer, quoi. Donc, c'était une énergie non renouvelable et fossile. Enfin, c'était du soleil transformé, mais avec. Je ne sais pas si tu le sais, mais par exemple, tout le charbon dans le monde a été fait il y a à peu près 70 millions d'années, si mes souvenirs sont exacts. Quand les plantes sont. Il y a eu une espèce d'explosion des plantes parce qu'il y avait beaucoup de CO2, et que bon, les plantes se déposaient ben, quand elles mouraient, quoi. Mais qu'il n'y avait pas, y avait pas de bactéries pour bouffer les résidus. Donc ils sont entassés, ça donnait le charbon, quoi. Puis il y a à peu près 20 millions d'années plus tard, je ne sais pas quoi, La nature a trouvé un truc pour détruire, puis on n'a plus fait de charbon. Donc tout le charbon a été fait dans une période assez courte. Et puis voilà, puis quand on n'aura fallu plus, on n'a fallu plus. C'est fini. Donc il y a une espèce comme ça de. Donc on bouffe de l'énergie qui était autrefois
Oui, qui a été
fossilisée.
fossilisé il y a des milliards
Il y
d'années.
a
Oui,
des
oui.
centaines de millions d'années, etc. Bon. Si on prend les chiffres, je vais essayer d'être bref, si on prend les chiffres, aujourd'hui, 80% de l'énergie dans le monde est fossile, c'est-à-dire charbon, gaz et pétrole. Le reste, c'est le nucléaire, c'est le vent, c'est les miroirs magiques, c'est tout ce qu'on veut. Bon. On a décidé d'arrêter ça. Je ne sais pas si tu te reviens de ce qu'on compte, 80% de l'énergie mondiale est aujourd'hui. On décide d'arrêter. C'est-à-dire qu'on change complètement de paradigme. On change, mais complètement de système économique. Tout va être complètement bouleversé.
Et on change sans alternative.
Et on change pour l'instant. On a dit, bon, ben. Comme le charbon, c'est très mal, le pétrole, c'est guère mieux, et le gaz, c'est un peu mieux, mais guère mieux quand même, on va cesser de subventionner tout ça.
Mais c'est pas comme si on avait découvert une autre source, à part la décroissance, à mettre en face de ça, on n'a rien.
On n'a rien. Et alors on nous a dit, on va mettre des miroirs magiques et des moulins à vent, mais
Ah oui, mais c'est
même pas.
des incantations. Oui.
C'est des incantations, c'est.
Ah bah, cela dit, ça coûte du pognon, mais...
Ah ben ça, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent dessus, mais ce n'est pas rentable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les entreprises dont le métier était de découvrir les nouvelles sources d'énergie, de les exploiter, etc., ont pris la décision, voyant l'enthousiasme que ça déclenchait chez leurs actionnaires, bah, de cesser de chercher. Ou du moins de cesser de chercher chez nous. Ils continuent à chercher en Russie, ils continuent peut-être à chercher en Chine, mais chez nous, ils cherchent plus du tout. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans un monde très curieux, où la croissance reprenant gentiment, ben, on arrive à un moment où la demande d'énergie commence à être supérieure à l'offre d'énergie. Mais il n'y a pas de ressources supplémentaires dans le système. Il n'y a pas
Non,
de réserve, il n'y a
puisque...
pas de gras. Donc qu'est-ce qui se passe? Les prix explosent à la hausse.
C'est un cycle du cochon, donc,
C'est
là.
exactement le cycle du cochon.
Mais alors, du
On
coup, est-ce
a
que...
cessé de produire des cochons et on se demande pourquoi le prix du cochon augmente.
Alors, du coup, est-ce que ça ne va pas lancer les entreprises qui avaient arrêté de produire
Mais il
à
faut.
relancer une
Mais
production?
c'est là où le cycle est très long, c'est ce que j'ai expliqué. C'est un cycle qui prend une trentaine d'années. Entre le moment où tu lances.
Oui, en fait, c'est un tanker en haute mer. Le temps où tu décides d'arrêter, le
Le
bateau fait
bateau, il a
enfer.
déjà fait pareil New York, quoi. Il est tellement gros. Et donc, vous avez ces espèces d'énormes inerties. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans un monde où il n'y a pas assez d'énergie. Donc, prenons le pétrole, qui est un bon exemple. Mais le gaz est encore pire. Hein. Il est encore plus en déséquilibre. Mais ça parle moins. Le pétrole, on consomme à peu près 100 millions de barils par jour. Dans le monde entier.
D'accord,
100
100
millions de
millions de
barils. 100
barils.
millions de barils par jour.
OK.
Bon. Si on est à 98 millions de demandes, tu vois, la demande est à 98 millions, l'offre est à 100 millions, le prix est en équilibre. Tu vois, il y a 2 millions trop, donc ça, il y a de quoi. Mais s'il y a un pet dans le système, je ne sais pas, par exemple, je ne sais quel. Il y a un pipeline qui a sauté quelque part, dans je ne sais pas quel pays lointain, et qui transportait 500 000 barils par jour. Bon, mais 500 000 barils par jour, d'un seul coup, s'ils n'arrivent plus sur la mer, ça commence à sentir. Et comme je l'ai expliqué aussi toujours ici, les matières premières, comme tous les produits, comme tous les marchés, dans tous les marchés, ça se traite à la marge. C'est-à-dire, c'est le dernier prix qui fait. Le prix, c'est-à-dire, va acheter le prix du pétrole s'il se met à monter comme une fusée, celui qui peut l'acheter. Mais celui qui peut pas l'acheter, lui, il doit en avoir quand même, parce qu'il faut qu'il fasse tourner son entreprise, donc il est obligé de l'acheter à ce prix-là. et on rentre dans l'espèce de... Quand le prix, c'est complètement inélastique par rapport au prix à court terme, c'est-à-dire c'est pas parce que le prix monte de 20% qu'on va cesser d'en acheter.
Oui, non.
En fait, on doit en acheter autant, mais on doit mettre 20 fois plus d'argent,
Oui,
20%.
c'est un peu comme une dépendance à la cigarette. C'est pas parce que le gouvernement, et on l'a vu, augmente les prix
Exactement.
que. Alors, quand ils nous disent il y a moins de ventes de cigarettes, c'est qu'en fait les gens achètent des cigarettes
En contrebande.
en contrebande.
Mais il
C'est.
n'y a pas d'énergie de contrebande, là, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prix explose à la hausse et que c'est très intéressant parce que c'est là où on se rend compte que l'énergie, c'est l'économie, c'est vraiment de l'énergie transformée. Et ça se diffuse partout. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette hausse des prix se retrouve partout. Et alors,
Oui, mais toute création, je sais pas, de ta baguette, il y a de l'énergie
il y a de
dedans.
l'énergie dedans. Ben, il y a ne
Le
serait-ce que
four,
le
il y a le camion pour amener
il y a
la
le camion,
farine.
il y a le gars qui arrive en métro, enfin, pour faire son boulot. Donc tout est énergie. Et donc on sous-estime toujours l'énergie. C'est un peu comme l'air. On se dit, mais si on n'avait pas, on serait marrien, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc on est en train d'arriver dans un monde où tout le monde sait qu'il ne va pas y avoir d'énergie. Tout le monde sait que les mesures prises par les gouvernements dans les éoliennes et les miroirs magiques ne servent à rien, qu'elles sont complètement incompétentes. Et on n'a pris aucune mesure de préparation à cette transition, sauf des mesures légales en disant, ben par exemple, les fonds de pension n'auront plus le droit d'avoir des valeurs pétrolières
En bourse, enfin d'acheter en
dans
portefeuille.
leur portefeuille. Ce qui est quand même une histoire extraordinaire, parce que
Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de marge, enfin en tout cas.
déjà, ben par contre, ils peuvent acheter des obligations françaises à rendement négatif,
Oui, ça,
mais
on le sait.
ils peuvent pas acheter.
Donc
Donc,
en fait, la hausse des prix de l'énergie, pour toi, là, c'est inéluctable.
ah mais ça fait 2 ans que j'en parle.
Oui, ça
Alors,
fait 2 ans que t'en parles, mais
mais maintenant, le coup est parti
le coup est
et il
parti,
est
il est
inarrêtable. Et
inarrêtable.
personne n'a la moindre idée de l'endroit où l'énergie va s'arrêter au plus haut.
Alors, pourquoi...
Donc elle peut monter à 150, elle peut monter à 100. Elle peut monter à 450, je n'ai aucune idée, parce qu'on rentre dans un monde où ça n'est plus le calcul rationnel, mais la survie qui
La
est en jeu.
survie, bah oui, bien sûr. Donc ça va être le plus offrant. Là, on rentre dans un marché mercenaire, en fait.
Alors on rentre dans un marché où, et le pire, c'est que c'est ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est comme toujours, c'est les petits gens qui m'ont ramassé le plus plein la
Mais bien
tête.
sûr, bien
Parce
sûr.
que les petits gens, comme je l'ai souvent expliqué ici, c'est les loyers, leurs dépenses habituelles, c'est les loyers, c'est l'énergie et c'est la bouffe. Or, qu'est-ce que c'est que la bouffe aujourd'hui, compte tenu des engrais, qui ne sont que de l'énergie, hein, et qu'est-ce que c'est que les loyers qui sont de l'immobilier, qui n'est que de l'énergie aussi? Ben, si vous voulez, ça va exploser à la hausse. Donc, le niveau de vie des gens qui ont le niveau de vie le plus bas va ramasser une gamelle qui va faire paraître les quelques centimes d'hausse d'impôt sur le diesel qu'avait fait pour les gilets jaunes le puissant génie, là, comment il s'appelait, le premier ministre de Macron, enfin Philippe.
Attends,
Oh,
j'ai
Philippe.
Castaner qui me vient, mais c'est... Oui, Édouard Philippe.
Édouard Philippe. Ben, donc si vous voulez, ça va paraître comme un jeu d'enfant. Donc ce qui arrive devant nous, c'est littéralement une hausse cataclysmique du prix de l'énergie qui a été organisée de toutes
Seulement.
pièces sans aucune part les politiques et les écologistes. Et donc je me dis, mais
Alors, positivons, est-ce que ça ne va pas permettre, en reprenant un pays comme la France, qui a quand même la chance d'être riche localement, est-ce que ça ne va pas permettre quelque part aussi de restituer des circuits courts?
mais tout à
C'est-à-dire
fait.
qu'on va arrêter d'aller acheter de la cerise turque, et du coup les gens vont peut-être se dire, ah bah ça va peut-être produire en local, consommer en local, sans avoir le coût du transport, qui du coup va devenir un coût qui peut-être ne va plus rendre la cerise turque intéressante
Le
financièrement.
transport, aujourd'hui, je crois que 80% du commerce international se passe par bateau, avec d'ailleurs celui qui pollue de loin le plus, et des espèces d'énormes tankers, etc. Mais aujourd'hui, tout ce qui est production très éloignée et consommation à l'autre bout de la Terre est certainement condamné à mort. Mais il faut faire attention, comme on dit en anglais, il faut faire attention à ce que vous souhaitez, parce que si ça arrive, vous pourriez avoir des problèmes.
Be careful what you wish for. You
Big
might
off,
just get it.
you must just get it. C'est un proverbe que j'aime beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a toute une série, il y a toute une partie de notre niveau de vie qui était montée pas mal à cause de ces prix très bas qu'on avait sur des prix qui étaient faits là-bas, là-bas, là, loin, loin, avec un produit pas cher et tout. Donc ça va augmenter terriblement le niveau de vie. Donc, ce que cette espèce de... Et alors, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que le cycle-là, si on a une mauvaise année de production de blé, on se dit, bon, l'année prochaine, ça ira mieux. Et donc, on a des stocks, bon, le prix du blé monte un peu.
Il faut vraiment qu'il y ait 7 mauvaises années.
Cette mauvaise année, comme dans la Bible, mais là, l'énergie, c'est un cycle à 30 ans. Prends le nucléaire, les Français disent, ouais, on va revenir dans le nucléaire. Ben,
oui,
je
mais
peux...
le temps de chauffe, le temps que ça, il va
Mais
falloir
c'est
15 ans.
pas ça, c'est que comme on a quasiment fermé le nucléaire à la recherche française sous le gouvernement Jospin, ça devait être à la fin du 20e, donc...
Est-ce qu'on a encore déjà les ingénieurs nucléaires?
On les a plus.
Oui, ils sont partis.
Mais ils sont partis, ils sont toutes les filières françaises. La filière française du nucléaire était localisée géographiquement, ça allait de Grenoble à Lyon et jusqu'à Marseille. C'était cette
Les
espèce
temps de berre.
d'ignorance. Ben voilà, il y avait tout ça. Il y avait, et tout ça, c'est là où il y avait des centaines et des centaines d'entreprises qui étaient sous-traitantes et où il y avait des types très compétents, j'en ai connu un certain nombre. À partir du moment où on décidait de tout arrêter sous Jospin, ou quasiment, juste d'entretenir ce qui était là, maintenant, il faudrait refaire, j'ai presque envie de dire, des cours dans les arts et métiers,
Oui, des formations pratiques, parce qu'il y
des formations
a...
pratiques, parce que bon, tout le
Pour
monde me dit,
former toute
bon,
une catégorie de jeunes avec les budgets, parce
avec les
que...
budgets, le corps des mines, bon, il y en a toujours eu 3 ou 4 à Polytechnique qui comprenaient très bien tout ça, c'est très bien, ils sont là, mais il y avait une armée d'arts métiers, de centraliens qui bossaient là-dedans, qui
Et puis
comprenaient.
surtout, attends, ce qui est important quand tu crées quelque chose, c'est d'avoir des anciens aussi.
Voilà, mais qui passaient le message. Et les anciens aujourd'hui, ils ont quasiment mon âge. Ils ont 78 ans.
On est
Donc,
encore très bien,
oui,
70
on est encore très bien, mais tu dis, moi, je ne m'imagine pas en train de galoper pour monter, descendre sur des cuves nucléaires. Par exemple, la cuve nucléaire, par exemple, autrefois, on avait une spécialité qui était de faire des cuves nucléaires de bonne qualité, je ne sais plus, je crois que c'était au Creusot, j'en sais rien. On ne sait plus faire. On ne sait plus faire. Donc, on se trouve devant un monde où un pays comme la France, qui avait une industrie, a réussi à la détruire en l'espace de 20 ou 30 ans, et maintenant on arrive à la fin du cycle énergétique favorable que les investissements précédents en énergie avaient créé, c'est-à-dire c'était les investissements gaullistes qui avaient permis à Jospin de faire le malin.
Oui, là c'est toujours pareil.
Et donc, 20 ans après, on se retrouve ayant l'air complètement couillon, on n'a plus les investissements, ils arrivent enfin, on n'a plus les hommes,
Tout
on
ce
n'a
qui est
plus les
Alstom, ça a été
capitaux, on a
cédé, tout ce
vendu
qui est...
Alstom à la casse. Enfin, et on a donc cette espèce d'immense trou noir qui arrive devant nous et dans lequel on ne comprend pas d'où va venir l'énergie dont on va avoir
Alors,
besoin.
est-ce que tu penses qu'on va se retrouver à un moment, j'exagère, mais à dessein, sans chauffage, les pieds dans la boue?
À ce moment-là, j'imagine que les écolos feront 0% des voix.
Oui, non, mais au moins on prendrait quelque part une mesure nationale pour se dire allons-y. Mais alors déjà, ça prendrait 20 ans pour s'en sortir. Mais au-delà de ça, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un point de rupture? Parce que, entre guillemets, il n'y en aurait pas assez
Mais il
pour
y
tout le
aura
monde,
un
hein.
point de rupture. Le point de rupture, il est inévitable. Mais je sais très bien comment ça va se passer, parce que c'est toujours comme ça. Quand un gouvernement fait une erreur dans ses calculs à long terme, quelle est la solution? C'est toujours le ticket de rationnement. Donc, ils vont commencer à nous mettre des tickets de rationnement.
Alors là, je fais ma complotisme, mais beaucoup de gens disent qu'effectivement, cette histoire de Covid, c'est pour nous recenser d'une certaine façon et allouer par suite un chèque énergétique.
On aura un petit dossier comme ça, dans lequel on dira, dites donc, monsieur Gare, vous avez pris l'avion 2 fois pour aller aux États-Unis et une fois pour aller au Canada cette année, c'est beaucoup. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez aller aux États-Unis, vous y allez à la nage, quoi. Mais oui. Et donc, c'est les prémices d'une société du rationnement qui sera administrée par un État qui a fait la preuve totale de son incompétence. Voilà qui vous donne envie de. Voilà qui vous donne envie de. Alors, sans vouloir faire de peine aux gens, mais on voit que par exemple, en Chine, ils bâtissent, je sais pas, une centrale nucléaire par mois ou un truc comme ça. Ils sont tout à fait. Et puis les centrales à charbon, ça y va, et les centrales à gaz, ça y va.
Alors, justement, Philippe, sur notre compte Twitter, me demandait, est-ce que si je pouvais poser la question à ton avis sur le futur du marché nucléaire et l'impact sur le prix de l'uranium?
Alors, l'uranium, c'est une toute petite partie du coût du nucléaire. Mais il est évident qu'on va se retrouver maintenant. Je crois savoir que les Clinton en particulier, l'administration Clinton et Madame Clinton, avaient vendu une grosse partie des gisements d'uranium américains, parce qu'ils en ont pas mal aux États-Unis, aux Russes.
Ah oui, bah, fière allure quand même.
Vous savez, le traître, celui qui parlait avec les Russes, c'était
Le fils
Trump.
de... Ah oui.
D'après la presse officielle, en fait, ceux qui avaient tout vendu aux Russes, c'était les Clinton. Mais enfin, ça, c'est un détail.
Il n'y a pas le fils de Biden dans une...
Biden, il est dans tous les coups tordus, ça. Mais Biden, le fils de Biden, ça a toujours été une ordure, ça. Le père aussi, d'ailleurs. Mais ça, c'est pas. C'était plutôt sur le pétrole, lui. Donc, oui, le prix de l'uranium va monter. Oui, on a à voir, mais ça a déjà beaucoup monté. C'est déjà beaucoup monté. Et c'est pas essentiel. L'essentiel, c'est le Noah. On l'a bien vu avec l'histoire de Flamanville. Alors je sais que par exemple, il y a des gens comme Bill Gates, qui est loin d'être bête, qui consacre une partie gigantesque de sa fortune, de plus en plus, à essayer de bâtir des centrales nucléaires de poche, en quelque sorte. En disant, on a tous essayé d'aller vers le plus en plus gros, en fait on devrait faire des petites centrales nucléaires, et qu'on pourrait disséminer partout, qu'on pourrait répéter à l'infini. On n'a pas besoin de ces espèces de monstres comme Flamanville, qui avait essayé de faire EDF. Toujours plus gros. On n'a pas besoin d'un Concorde, on a besoin d'un DC-3, quoi. Donc ils essayent de faire des tas de
Je
DC-3.
connais
Donc,
rien, donc peut-être.
mais ça paraît pas idiot.
Ouais.
Alors, les Russes, par exemple, ont fait quelque chose que moi j'ai trouvé extrêmement malin, mais c'est qu'ils ont mis des centrales nucléaires sur des grosses barges qui
Ah oui, on en
flottent.
avait déjà parlé.
Je trouve ça malin. Donc, s'il y a besoin d'énergie nucléaire quand il fait froid en Sibérie, on envoie la barge là-bas. Puis on a besoin d'air conditionné à Moscou pendant l'été, on renvoie la barge en bas, et puis elle se bat. Donc on va essayer de rendre l'énergie un peu plus mobile. Puisque la mobilité est réduite, on essaye de réduire. Donc il y a toute une série de solutions qui se posent, et je n'ai pas de doute que les gens vont se mettre au boulot et trouver des solutions qui sont plus intelligentes les unes que les autres. Il va y avoir aussi des efforts gigantesques à faire d'économie d'énergie. Mais alors le drame, c'est là où c'est assez rigolo. C'est que dans l'énergie, vous avez bon, le transport, vous avez tout ça, et puis il y a l'électricité,
J'avais une question sur ça, justement.
qui représente, je crois, que 40% de l'énergie mondiale. Je ne me souviens plus très bien, mais je crois que c'est à peu près ça. Mais celle-là, en raison de ce qui se passe dans les économies, ne serait-ce que du fait qu'on n'est plus au bureau, mais qu'on travaille de chez soi, donc.
Oui, mais du coup, on a besoin de beaucoup d'Internet, et ça aussi,
Ça bouffe de
ça bouffe
l'électricité.
beaucoup.
Et donc, j'avais lu, et j'avais d'ailleurs fait un papier il y a 4-5 ans, dans lequel on me disait que la demande d'électricité allait augmenter, allait doubler tous les 5 ans. Bon, mais là aussi, donc ça veut dire que il faut aménager le réseau électrique, il faut faire des investissements monstrueux. Ce que je veux dire, c'est que l'énergie, c'est un machin, encore une fois, qui se décline dans ses investissements sur 5 à 30 ans, quoi.
Et qu'on est déjà en retard, donc.
Ils ont pris toute une série de mesures sur les énergies dont on ne pouvait pas disposer. Donc, ils modifient le stock de production d'énergie. Mais pour l'instant, sans avoir pris aucune mesure d'aménagement, d'accompagnement. Donc, ils coupent ici et ils disent, mais démerdez-y,
Et comment ça se fait qu'on soit quand même toujours abreuvé dans les médias de culture woke, pardon, mais décroissance, arrêter, et que personne ne dise ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire simplement dire, les gars, on arrive vers une période où on va plus en avoir parce que vous êtes des demeurés. Pourquoi personne le dit? Pourquoi je l'entends pas, ça? Pourquoi on est obligé d'arriver au moment d'une crise énergétique pour arriver à pointer du doigt que ça fait 20 ans que des écologistes stupides nous bourrent le mou et qu'on se retrouve à Bordeaux à faire des toilettes sèches, à aller chercher du caca chez les gens pour faire soi-disant des engrais et qu'ils dépensent je sais pas combien à se balader dans le petit vélo triporteur comme si c'était ça et qu'on fait plus rien pour nos centrales et qu'on se retrouve comme des demeurés face à l'histoire?
Parce que je crois que c'est une vieille réalité, mais que les périodes faciles engendrent des gouvernements incompétents. et que les gars qui avaient pris les mesures sous De Gaulle
Parce qu'il
avec
s'était
Giscard,
retrouvé.
ils s'étaient retrouvés le dos au mur.
C'est là qu'on voit le mieux le mur.
Oui, on le
C'est au
voit.
pied du mur qu'on voit le mieux le mur.
Oui. Et donc, là, il y a eu des gars qui ont pris des mesures structurelles pour les 30 ans qui venaient, De Gaulle, Pompidou, Giscard. Et puis, une fois que ces mesures structurelles avaient été prises, il n'y avait plus besoin d'avoir le moindre courage, et donc on pouvait faire de la démagogie. Mais.
Donc on a arrêté d'être des grandes personnes et on a arrêté le monde des grandes personnes sous Giscard et on est rentré dans la démagogie dont on se fait plaisir, puisque on pouvait se permettre, puisque
Ils avaient fait le boulot,
ils
papa
avaient
avait
fait le
laissé.
boulot, voilà.
Papa avait laissé ce qu'il fallait.
Donc papa a dit, et du coup tout se passait bien, on se dit bah voilà, j'ai
Et
fini
alors
mes
il se
devoirs, maintenant
passait, mais j'ai
je
fini,
peux me faire plaisir.
je peux me faire plaisir. Alors il se passe un phénomène, c'est quand on avait bâti l'appareil nucléaire français quelque part, tous les autres pays autour, là, se disaient, bon, il est quand même extrêmement puissant, très gros, donc si jamais nous on a un pet, on pourra tirer sur eux. Donc on exportait comme ça, en fonction s'il y avait une sécheresse en Espagne, on envoyait de l'électricité et ça marchait bien. Mais maintenant, la demande d'électricité chez nous est en train de bouffer. Puis en plus, on a fermé deux centrales qui marchaient très bien. Ça, c'est encore un coup génial, ça.
On peut peut-être les rouvrir, celle-là, en
Oh,
électricité.
mais ça m'attend fou. Ça m'attend fou de fermer une centrale. C'est comme de fermer un haut fourneau. Il te faut des années pour le remettre. Bon, enfin, on va sans doute les réouvrir, mais ça, tu te rends compte, la claque, ça sera pas rouvert si Macron est élu. Il est réélu, quoi. S'il est pas. Bon, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on commence à utiliser. C'est-à-dire que tout le reste de l'Europe se laisse, se n'a plus maintenant l'espèce de volet de sécurité que lui donnait la politique qu'avait suivi De Gaulle, Pompidou et Giscard, 30 ans avant. Parce que eux aussi, ils ont vécu. On peut dire que l'Europe, elle a vécu. Elle s'est libérée de toute dépense militaire en demandant aux Américains, c'est vous qui vous occupez des trucs militaires.
Ah
Moi,
oui,
j'ai.
donc on a eu 600 000 GI qui se sont mis sur la roue et on a dit vous bougez plus. Alors ils peuvent nous dire après l'Europe ça a fait la paix. Ce qui a fait la paix, encore une fois, c'est 600 000
C'est
GI
600 000 GI qui
qu'on a
sont.
mis là-haut. Et tout d'un coup on s'est dit ouais, on va peut-être pas bouger parce que quand même, bon, sans compter que la guerre a un peu bougé et qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas dans une guerre économique?
Est-ce qu'on n'est pas. Par exemple, quand on bombarde la Serbie, est-ce que c'est pas une guerre? Bref, me dire qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe, c'est une bêtise. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Donc, l'Europe n'a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité militaire à cause des Américains et n'a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité énergétique à cause des Français qui avaient été De Gaulle. Et du coup, on se retrouve en 2020 n'ayant ni sécurité militaire, à un moment où le monde devient un peu dangereux, ni sécurité énergétique, et avec une France qui est en déliquescence totale.
Donc si là, on reprenait des décisions courageuses et qu'on disait, voilà, on va refaire un effort.
Mais la première décision courageuse, c'est dire aux Allemands, vous fermez vos centrales à charbon et on n'achète plus vos voitures qui sont faites avec du charbon. Si vous voulez, vous achetez nos voitures faites avec de l'énergie nucléaire, parce que c'est pas polluant. Mais les Allemands, parce que maintenant le tiers du gouvernement allemand sont des écolos, se sont battus comme des chiens pour empêcher qu'on dise que l'énergie nucléaire était verte.
Mais les débats sont revenus là récemment, justement, déclarer
Mais je crois que
l'énergie
la France va
nucléaire.
peut-être gagner, mais parce que les Allemands voulaient bloquer tout investissement dans l'énergie nucléaire. Donc ils ont fermé il leur reste deux ou trois centrales à fermer, mais ils ont fermé pendant l'été dernier des centrales nucléaires qui représentaient la consommation d'électricité à peu près du Danemark. Ils les ont fermées pour des
Et c'était même pas. Parce que nous, on a fermé des centrales, mais parmi celles-là, c'était prévu parce qu'elles étaient.
Mais
elles étaient
c'était prévu,
vieilles et qu'il y a.
c'était Madame Merkel. Madame Merkel, qui a été la femme qui a organisé le déclin de militaire et le déclin énergétique, et
Sous
avec,
nos applaudissements.
sous les applaudissements de toute la classe politique française, enchantée d'avoir quelqu'un qui ne comprenait rien à rien et qui prenait de mauvaises décisions sur mauvaises décisions.
Alors, quelqu'un me demandait pourquoi est-ce que le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, gaz qu'on achète beaucoup en
Alors,
Russie,
qu'on achète plus tard en Russie. Ça,
qui nous
c'était.
rend fragiles, encore une fois, et dépendants.
Indépendant. Alors ça, c'est encore une autre qui est parfaite. Bon, l'électricité en principe, maintenant, ça devrait être fait donc par les éoliennes, et comment on appelle ça,
panneaux solaires?
Les panneaux solaires, voilà. Bon. Sauf que s'il n'y a pas de soleil et s'il n'y a pas de vent, ou les deux, il n'y a pas d'électricité. Donc, dans toute capacité installée, dont tu vois la production officielle, je ne sais pas combien de mégawatts, ça va faire ceci, ça va faire cela, ça, c'est la production théorique. En fait, ça ne marche jamais, parce qu'il y a des tas de moments où il n'y a pas de vent, il y a des tas de moments où ce sera à peu près le cas.
Je crois qu'il y a des problèmes de stockage aussi.
On ne peut pas stocker l'électricité. Le jour où on aura résolu le problème de stockage de l'électricité, la crise énergétique sera finie dans la seconde. S'il y a un type qui trouve une façon de stocker l'électricité dans une cuisine plus intelligente qu'une batterie, je te signale que les premières batteries, on les trouve encore une fois à Ninive de 2000 ans avant Jésus-Christ. Quoi. Ça servait à faire des alliages pour frauder le fisc. Enfin,
Très bonne raison, très bonne raison.
La nature humaine ne change pas.
Non, non, non.
Bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il faut que quand tu fais, 5 mégawatts, j'en sais rien, de production de miroir magique, là, il faut que tu mettes à côté une centrale à gaz de 5 mégawatts que tu mettras en route si jamais l'autre ne produit pas.
Oui, bah oui.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'autre qui ronfle. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de vent? Ni en France, ni en Allemagne, ni... on demande du gaz pour remettre en route le truc.
Ouais, oui, c'est comme une voiture hybride. Quand tu n'as plus assez d'électricité, ça passe en,
voilà.
Ça passe en pétrole.
Et à ce moment-là, qui fournit ton gaz?
La Russie.
La Russie. Et qui va le demander le gaz? Tout le monde en même temps, la Russie. Et si tout le monde demande le gaz à la Russie en même temps, le prix du gaz va péter à la hausse.
Et du coup, ton électricité
est indexée sur le gaz
sur
russe.
Le gaz,
sur le gaz russe qui est indexé elle-même sur l'absence de vent.
Oui. Oui. Puisque quand on a besoin, en fait, c'est magique.
C'est magique. Hein.
Plus ça marche pas, plus ton prix du gaz monte.
Exactement.
Donc en fait, tu entretiens la hausse des prix toi-même avec un système qui fonctionne pas.
Voilà. C'est la beauté de ce que j'appelle le capitalisme de connivence.
C'est formidable.
Alors, il y a un très bel exemple qui a été fait là, qu'il faut expliquer aux gens parce que. Si vous voulez, ça serait raconté par Coluche, les gens diraient non, 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 même pas déconner, c'est pas possible. Quoi. Alors, les Européens se rendent compte qu'ils ont un gros problème de gaz. Donc, ils se disent, qui peut produire du gaz? La Russie, personne dans le monde. Donc, il y a un consortium européen qui se monte, dans lequel tu auras, je ne sais pas, les suspects habituels, Royal Dutch, je crois qu'ils sont 5 ou 6, un Allemand, un Français, un Hollandais, et puis peut-être un Danois. Et ils disent aux Russes, on aimerait bien deux sociétés du secteur privé, énergétique. On aimerait bien vous acheter du gaz. Et les Russes disent... On veut bien, mais vous savez, on n'a pas envie de faire les investissements pour le transporter de 2500 km, le pipeline. Qu'à cela ne tienne, disent les Européens, c'est nous qui payons tout. Donc tu vois, ça s'appelle Nord Stream 2.
Oui, oui, le fameux.
Le fameux Nord Stream 2. Donc on paye tout, disent les Européens.
Tu en avais parlé avec Xavier Moreau dans le second entretien.
L'idée aussi, c'est de faire passer le gaz en dessous de je ne sais quelle mer, la Baltique ou j'en sais rien. Pour éviter l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est quand même un panier de crapes incroyable.
Et
que,
comme on le voit en ce moment.
Comme on voit en ce moment, et qu'il ne faudrait pas que les Ukrainiens nous forcent dans une guerre en coupant le gaz avec la Russie, donc on fait passer en dessous.
Donc ça a dû coûter bonbon.
Ça a coûté bonbon, mais surtout, ça enlève une grosse partie de ses ressources à l'Ukraine qui attendait le passage du gaz pour toucher du fric, pour ne rien faire. Ce qui permettait de financer le fils de Biden, ce qui était quand même important, entre autres. Et les campagnes présidentielles de M. Biden. Mais, bon, ça c'est un aside. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le gaz est prêt à être envoyé. Mais, maintenant, il est fini. Mais les Américains gueulent comme des putois en disant, dites donc, si vous devenez complètement dépendant du gaz russe, là, il suffira qu'ils disent, je vous coupe le gaz et vous vous couchez. Donc, vous n'avez plus besoin de ma protection militaire à ce moment-là. Donc, si vous voulez garder ma protection militaire, et d'ailleurs, on va... vous ne prenez pas le gaz russe.
Oui, mais du coup, on prend quel gaz?
Et ben du coup, on fait monter le prix du gaz comme une fusée, il n'y a pas de gaz de remplacement. Et surtout, tous les investissements faits par les grands groupes européens valent zéro. Parce qu'ils ont dépensé le moyen.
Oui, bah oui, pour faire ce Nord Stream 2. Quelque
C'est
part,
les Russes, ils s'en foutent.
il aurait fallu arrêter le coup en amont, avant de créer les pipelines. Parce qu'une fois qu'elle est faite et que tout le monde a dépensé, bah, il dit, bah oui, bah, maintenant je vais m'en servir.
Et alors du coup, les Américains essayent de créer une espèce de tension en Ukraine pour faire croire que les Russes vont envahir l'Ukraine, qui en ont...
Ah, tu penses que c'est factice?
Ah mais c'est complètement factice, c'est pour que les Européens se réalignent derrière l'OTAN. Enfin, on agite un peu les Polonais en disant les Russes veulent vous envahir à nouveau. Et ça, les Polonais, ils sont assez sensibles
Oui,
dès le départ.
bah, oui.
Les Baltes et les Lituaniens aussi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas que la Russie était particulièrement aimable avec eux dans l'histoire, mais enfin, bref. Donc, il y a toute une série de trucs qui se passent comme ça, auxquels les gens ne comprennent rien, en se disant, mais enfin, pourquoi d'un seul coup, le gaz ne peut pas arriver? Et qu'est-ce qui se passe? Comme on refuse le gaz là, il se trouve que les Américains font du gaz de schiste, tu sais, en
Oui,
Europe,
oui,
avec des bateaux
oui. C'est
gaziers.
assez opaque d'ailleurs ce marché, hein, j'y comprends. C'est assez opaque le marché du gaz de schiste.
C'est très opaque.
Personne n'y comprend, enfin personne n'a pas l'air d'y comprendre grand-chose. J'ai jamais lu quelque chose qui soit. Enfin, dites-le nous en commentaire si vous avez, en tout cas moi ça m'intéresse, si vous avez des
Les
documents, des
beaux
choses qui
trucs.
expliquent. Parce que je comprends pas très bien
En tout cas, ce
les.
qui est certain, c'est qu'il y a peu de gens qui ont gagné de l'argent sur le gaz de schiste ou le pétrole de schiste. On en produit, mais on a de la famille un petit peu par alliance dans l'Oklahoma. Vous savez, l'Oklahoma, c'est au-dessus du Texas, c'est là où il y avait du pétrole et tout. Quand on trouvait du pétrole dans le Texas et l'Oklahoma, la prospérité ruisselait sur tout le pétrole. Là, pendant le machin du schiste, ils ont fait des trous partout, ils ont cassé des roches et tout, et ils sont tous ruinés à la fin, quoi. Il n'y a
Non,
personne qui a
parce
gagné
que
un rond.
je me souviens, il y a 10 ans, tout le monde était bon. Alors déjà, il y avait les noms, gaz de schiste, le fractal, le machin, ça va être terrible et tout. On en a parlé, ça devait être incroyable, être une source de revenus incroyable, être une source
Mais
d'énergie
ça a changé
incroyable.
la balance commerciale américaine, qui d'un seul coup est devenue excédentaire en exportation de pétrole.
Oui, et puis ça leur a permis du coup de ne plus être
Dépendant
dépendants du Canada. Du Canada et
de l'Arabie Saoudite surtout, et
et
du Venezuela.
du Venezuela. Qui
Mais
depuis
alors, on
s'en
se
sort
retrouve d'un
assez
seul
mal.
coup, donc avec les Européens payent donc le gaz de schiste américain qui arrive en bateau, ce qui est quand même très, très peu écolo, à deux ou trois fois le prix qu'ils paieraient si c'était du gaz russe.
Oui, mais du coup, alors attends, parce que si nos prix d'énergie montent, les prix des bateaux, les prix des transports, comme on a vu au début, ce gaz-là de schiste va devenir hors de prix pour nous Européens.
Mais il est déjà.
Il l'est déjà, mais je veux dire, ça va pas
Mais on
aller
n'a
dans le
pas le
bon
choix, c'est
sens.
puisque c'est inélastique. Par contre, ça fout l'industrie européenne en l'air. L'industrie du ciment, l'industrie
En fait, on ne va plus pouvoir, puisque l'énergie.
faire des trucs d'énergie lourde, on peut
Non,
plus.
on ne peut plus. Donc, il va falloir soit développer l'artisanat, les métiers à très forte valeur ajoutée, ou les métiers de service.
Ben, les métiers de service, maintenant, ça fonctionne avec l'Internet, avec tous ces trucs-là, mais si l'électricité passe au travers du toit, ça va pas être... Donc, à force d'intervenir dans des... C'est comme si on devait faire littéralement irriguer une plaine et qu'on décide qu'on va irriguer qu'un petit bout ici, un petit bout là-bas, un petit bout là-bas, selon les désirs du gouvernement, mais qu'on ne va pas irriguer le tout. Et donc, on arrive à cette intervention perpétuelle des gouvernements dans les prix de marché, en particulier l'énergie. Je ne sais pas pourquoi ils se tiennent, ils se trouvent parfaitement capables de s'occuper des problèmes d'énergie alors que tout montre depuis 30 ans, ils se sont trompés sur tout. Et ben c'est ça qui nous amène dans une baisse du niveau de vie gigantesque, puisque les calculs, c'est ce que j'ai fait dans un article récemment, j'ai regardé, ExxonMobil, donc qui est la plus grande société pétrolière du monde, un département de recherche, et qui explique que la demande d'énergie primaire en Europe, dans les 30 ans qui viennent, va baisser de 17%. Mais attends une seconde, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'une demande d'énergie qui baisse de 17% sans que le PIB baisse de 17%. Donc il nous explique à la fois que là ça va baisser de 17% et que le PIB va continuer à monter. Mais c'est un mensonge. C'est une hausse de la productivité énergétique qui est impossible, ça n'existe pas. Donc ce que les hommes politiques sont en train de nous préparer pour les 30 ans qui viennent, il faut bien que tous les gens soient là. qui nous écoute et en soit bien conscient, c'est une baisse de notre niveau de vie phénoménale. Et normalement, on ne devrait parler que de ça pour les élections qui arrivent. C'est qu'il y a un désir de faire baisser le niveau de vie des Européens. C'est absolument extraordinaire. Et une acceptation par les classes dirigeantes que cette baisse est parfaitement justifiée.
Oui, mais de toute façon, ils s'en foutent, eux, ils ne seront pas impactés. Quoi qu'il arrive, c'est un peu comme dans l'ex-URSS, où tu ne trouvais jamais un filet ou un contre-filet, parce que tout allait au siège du parti. C'est un peu comme quand tu vas en Chine, où sont les morceaux de poulet? En Chine, tu n'as que des tout petits morceaux de tu sais pas quoi, d'abat. Les mecs, ils mangent les coups des poulets, les pattes des poulets. Tu dis, mais il est où le reste du poulet? Et il est au siège du parti. Non, mais je ne sais pas où il est le reste du poulet. On le voit jamais. On voit que la tête, les coups, les trucs gélatineux. Tu dis, mais où va la viande? Et voilà, il y a un moment où ça va être ça. Donc évidemment, les huiles se disent, bah, eux, moi, je ne serais pas impacté, parce que quoi qu'il arrive.
Ou j'imagine qu'à la cantine à Bruxelles, du Parlement européen, ça ne va pas être le désastre.
Non, mais... et puis ça range. En plus, est-ce que les parlementaires, pardon, mais n'ont pas des prix d'électricité particuliers? Je crois qu'il y avait un chèque énergétique ou des prix qui étaient depuis la nuit des temps, depuis De Gaulle, avec des prix particuliers, un peu, tu vois, comme tu as des prix pour la SNCF ou des choses comme ça. Je crois qu'il y a ça. Bon,
Mais c'est toujours vrai, mais je suis certain que si leur but, c'est d'organiser des tickets de rationnement, celui qui est au sommet de la société, quand il y a des tickets de rationnement, c'est celui qui distribue les tickets de rationnement. Donc, on va vers une société où les tickets de rationnement seront distribués par M. Castex. Quoi. C'est ça le but de toute la politique qu'on nous fait depuis 10 ou 15 ans, qu'on appelle le grand realignment.
Vous savez, oui, le grand reset.
Le grand reset, c'est d'organiser une société de rationnement.
C'est horrible, ça me désespère de... Bon, alors attends, parce qu'il y avait une autre question.
Et en gueulant contre le fait que les Chinois, eux, qui étaient dans une société de rationnement, ils sont en train d'essayer d'en sortir. Donc ça, c'est absolument stupéfiant.
Alors, c'est une question qui va un petit peu, mais je crois qu'on n'aura pas le temps véritablement aujourd'hui d'aborder l'aspect, parce qu'au début, on voulait parler des marchés aussi. Je pense qu'on fera ça dans une seconde émission
absolument.
La semaine prochaine, parce que là, est déjà 41 minutes. Donc, ça va être un peu une question de transition, mais toutefois. Donc, pour toi, malgré le choc énergétique qui se profile, les actions liées aux hydrocarbures peuvent-elles réellement performer face aux formidables pressions SEG qui en font un secteur pestiféré et boudé par les fonds d'investissement?
Alors oui, bien entendu. Le vrai problème ici, c'est qu'il faut revoir ce qui vient de se passer avec EDF.
Oui. Qu'on a forcé, donc, à vendre à...
non, c'est pas ça, c'est que...
À perte. Enfin,
on a dit, bon, il va y avoir une perte énorme, puisqu'on achète du gaz avec lequel on fait de l'électricité, et cette perte, logiquement, elle devrait être supportée par le consommateur, puisque c'est... on a dit, non, c'est EDF qui va prendre la perte, qui va assumer la perte pour les...
Oui, donc les personnes détentrices d'actions d'EDF
ont perdu d'un seul coup 25%. Ping ah. Ils s'en foutent parce que 88% du capital est détenu par l'État français, donc ça les a pas...
Oui, mais enfin, ça fait quand
mais
même
ça
un
veut dire
petit...
quoi? Essayons de réfléchir, parce que, par exemple, ton frère gère un fonds, et depuis un an et demi, il est bourré de valeurs énergétiques. Ça lui a coûté une performance relative, mais depuis 6 mois, il cartonne comme un fou. Bon.
Tout ça pour dire que c'était prévisible.
Et que ça a été prévu.
Ça a été prévu. Moi, ça fait 2 ans que tu dis on va vers
un désastre. Mais maintenant, comme rien n'a été fait, bon. Donc vous avez... Je vais vous raconter une petite anecdote qui prouve à quel point les choses ne changent jamais. C'est en 1973. Donc je suis au début de ma carrière, un jeune analyste dans une banque française. Je vais communication organisée par une société pétrolière canadienne qui s'appelait à l'époque Imperial Oil, qui était la plus grosse société pétrolière canadienne. L'analyste qui fait la présentation sur Imperial Oil dit, écoutez, faire une analyse un peu comme celle que je viens de faire, on va vers une pénurie d'énergie, le prix de l'énergie qui était à 1 $ le baril, ça va monter beaucoup, il va monter à 3, on est passé à 35, tu vois, c'est pour dire... Bon, enfin, bref, il voit bien le coup, et il dit, bourrez-vous d'Imperial Oil. C'était pas idiot, puisqu'il était le plus gros producteur. Alors moi, je lève la main, encore tout le monde a posé des questions intelligentes, et je pose une question stupide, et je dis, et qu'est-ce qui se passe s'il bloque le prix, si le gouvernement bloque le prix de l'énergie au Canada? La salle morte de rire. D'où il sort celui-là? Eh bien, tu ne le croiras pas, 9 mois après, c'est ce que faisait Trudeau. Et le cours de l'impérial oil s'est écroulé. Donc, le danger, si tu achètes des sociétés pétrolières, faut pas les acheter chez nous.
Oui, c'est ça. Enfin, faut pas les acheter dans des pays. Enfin, faut choisir les gouvernements des pays dans lesquels tu achètes tes actions.
Voilà, et là, si je mens total, c'est l'état dans l'état, je ne pense pas qu'ils y toucheront, mais j'en sais rien. La façon dont ils ont liquidé EDF, là, parce que c'était mettre EDF à mort ce qu'ils ont fait, c'était quand même un. C'est aussi
Ah,
un
mais là,
état.
ils peuvent toujours aller se financer sur les marchés, les gars. On va en prendre pour 15 ans, là.
Ils vont en prendre pour 15 ans, c'est le gouvernement qui va être obligé de payer. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je me dis, peut-être acheter quelques sociétés pétrolières russes.
Oui, beaucoup de gens posent des questions sur les sociétés pétrolières
Acheter
russes.
des peut-être acheter des obligations russes qui vous donnent du 7 ou du 8%.
Alors oui, pareil, les gens te demandent, et
C'est
la
pas
Russie, parce
mal.
que comme parfois tu parles de la Chine, les gens disent, oui, et la Russie, qu'est-ce que vous pensez des actifs russes? Qu'est-ce que vous pensez des actifs énergétiques
Oui, alors
russes?
là, je fais ça bien sûr dans l'espoir d'être acheté par le gouvernement
Oui,
russe.
parce que les Chinois ne payent plus assez.
Les Chinois, bon, puis je leur ai rendu service, c'est fini. Donc, oui, il y a ça qui est très important, c'est-à-dire qu'il faut garder dans l'esprit que si vous achetez, je ne sais pas, BP, allez, qui est une très belle société, qui était British Petroleum et qui a changé de nom pour s'appeler je ne sais pas quoi, ben, je crois que. La couronne anglaise détient une majorité dans BP, ou j'en sais rien, depuis toujours, hein, parce que
Oui, c'était un
c'était là le
fleuron.
truc, c'était en Iran, c'est là où ils allaient, c'est les terres de chasse de l'Angleterre à l'époque. Bien, il n'est pas du tout exclu que ben, le gouvernement britannique dise à Sa Majesté, ce que je veux dire, c'est que les Anglais ont moins tendance à faire ça, mais quand même. Donc le vrai problème, c'est que si on est gouverné par des crétins qui font rattraper par la réalité, ils vont essayer de bloquer le message.
En fait, encore une fois aussi, il faut regarder les sociétés pétrolières dont on parle, qui est au conseil d'administration. Et est-ce que l'État détient une participation? C'était une recommandation que tu faisais très souvent dans ton achat de 10 antifragiles dans les actions françaises. Et on verra la semaine prochaine quelle autre action et pourquoi les marchés sont aussi volatiles en ce moment sur le cours des actions.
Mais il
Mais.
faut bien se rendre compte, et ce sera une présentation pour le suivant, c'est que j'ai dit qu'il y avait une espèce d'arbitrage en 30 ans de génération compétente vers les générations incompétentes et de facilité vers le difficile, etc. Et ça se passe sur 30 ans en moyenne. Et donc il y a des moments où en quelque sorte le pétrole est pas cher du tout et les actions sont très chères, parce que l'énergie n'est pas chère du tout. Et puis, 15 ans après, en général, dans sa moyenne, les actions sont très bon marché et le pétrole est très cher, quoi. Ben, je crois qu'on est en train de terminer une période avec des actions très chères et du pétrole très bon marché.
Oui, bah oui, si on a quelque chose à retenir d'aujourd'hui, c'est que la
Et on
fin
va
du
à toute
pétrole.
allure vers une période où le pétrole va devenir très cher et les actions très bon marché. Donc, par exemple, en 70, il y avait ce qu'on appelait les Nifty 50, les 50 valeurs qui ne pouvaient pas baisser. Vous savez, c'était. Il y en a la moitié qui ont fait faillite depuis, mais enfin, ça s'appelait les Nifty 50. Hein.
Genre Kodak.
Genre Kodak, IBM, elle est toujours là, mais enfin, il y avait Kodak, IBM, il y avait Citicorp qui a fait 2 fois faillite, enfin bref. Il y avait ça. Et puis, vous aviez Exxon. Bon, ben, je crois qu'entre 70 et 80, c'est-à-dire en 10 ans, les Nifty 50 ont baissé de 80% et Exxon a triplé. Donc celui qui rentrait avec un portefeuille qui ne pouvait pas
Et
baisser,
malgré des Exxon Valdez.
malgré les Exxon Valdez, ça fait partie des. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sans doute à la veille d'un bouleversement total. Ce qui va devenir dominant maintenant pour la valorisation, c'est de transformer de l'énergie de façon rentable avec un prix d'énergie très élevé. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent.
Alors juste, et ça sera ma dernière question, avec cette hausse du prix de l'énergie, sachant que l'énergie rentre dans la fabrication de tout le panier de la ménagère, est-ce que, et tu l'as déjà dit, quand bien même que ça allait avoir un impact très fort sur les ménages les plus modestes.
Absolument.
Est-ce que ça veut dire que notre panier de la ménagère, nos courses vont être plus chères?
Évidemment, je calcule.
C'est-à-dire le beurre, le faux
Le
filet,
faux filet, tout va être
la
plus cher.
saucisse, enfin
Exactement,
tout.
mais je calcule. On me dit l'indice des prix de détail aux États-Unis, le CPI, Consumer Price Index, est à 7%, allez, hein, sur les 12 derniers mois. C'est déjà énorme. Et puis j'ai calculé un indice des trois prix essentiels dont je t'ai parlé, le loyer,
La voiture pour aller au travail.
L'énergie
Chauffer et l'électricité de
l'électricité, voilà.
ton chez
Les
toi.
trois, la bouffe, l'énergie et le loyer. Bon. Ben, c'est celui-là, il est déjà en hausse de 13% sur les 12 derniers mois.
Plus l'inflation de 7%?
Non,
Non,
c'est-à-dire
ça intègre l'inflation de
il a
7%.
déjà le double.
Ouais.
C'est-à-dire que les petites gens dans lesquels ces trois représentaient 100% de leur défense, eux, ils ne souffrent pas d'une inflation de 7, ils souffrent d'une inflation de 13. Et
C'est-à-dire que si tu
si leur revenu
mettais.
disponible
Voilà.
n'augmente pas de 13, il a dû augmenter de 2 ou 3, leur revenu disponible en tout cas, c'est. Donc ils ont une chute de leur niveau de vie de 10%. Ils
Ouais.
sont où?
C'est-à-dire que si tu mettais effectivement 10% pour tes loisirs, bah tu les as plus là, tes
Ah
10%.
bah là, plus rien, t'es complètement ratiboisé. C'est l'histoire que je racontais. Tu termines la fin du mois, commence le 10 du mois, quoi.
Ouais, donc ça commençait pas bien.
C'est-à-dire qu'on va tout droit vers des révoltes, des jacqueries. Il va y avoir des jacqueries. Les gens vont dire, écoutez, vous êtes gentil, mais je peux plus bouffer, quoi. Comment je vais bouffer mes enfants?
Comment je mets surtout de l'essence dans ma voiture?
Comment
Alors
je mets des
on va leur
sens
dire encore
pour
une
aller
fois.
travailler, j'ai besoin de mettre des sens dans la voiture.
Et puis j'ai besoin d'aller chercher les enfants à l'école, les amener à l'école, les aller chercher à l'école. Alors oui,
Donc, c'est une politique qui a été faite par des gens hors sol, qui ne croient pas,
qui n'ont pas conscience des réalités.
qui passent leur temps à intervenir dans le marché pour faire des bêtises, alors même qu'ils auraient toutes les occasions d'intervenir, par exemple, comme De Gaulle l'avait fait dans les années
D'après-guerre,
60
ouais.
et 70. Pour préparer l'avenir énergétique il y a 30 ans. Ça, je veux pas de mal au gouvernement s'il essaye d'assurer la stabilité ça fait partie de son boulot quand même, l'énergie. Donc, il s'occupe, si j'ose dire, du prix de la baguette. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce de controverse avec monsieur Édouard Leclerc, j'ai pas très bien compris pourquoi avec la baguette.
Parce que, alors, en fait, ce qui s'est passé, pour la petite histoire, c'est que Monsieur Leclerc est allé dans un talk show et a commencé à dire que lui, il n'était absolument pas contre, possiblement, demander le passe vaccinal à l'entrée de ses magasins, même s'ils ne l'ont pas fait en pratique. Du coup, c'est ce qu'on appelle sur les réseaux un bad buzz. Et à mon avis, je ne suis pas sa campagne de com, mais pour contrer ça, il a voulu faire un produit populaire d'appel parce que les gens ont dit, ah bah puisque c'est comme ça, on va plus dans vos magasins. Du coup, ils ont fait un produit d'appel qui est cette baguette qui
Elle doit être
casse le
dégueulasse
marché.
à 27.
Ah bah, évidemment, de toute façon, déjà, les baguettes industrielles, on va pas se mentir, sont quand même beaucoup moins bonnes parce que c'est pas la même farine. Mais c'est vrai que toi comme moi, on a pu voir quand on va là où, à Montfavet, là où on va l'été, il y a des gens qui, à midi, prennent littéralement 30 baguettes hein, avec de la viande pour animaux. Et tu sais bien qu'ils mangent que du pain. Et ils vont manger 2-3. Donc effectivement, si ça donne une baguette à 30 centimes, fait la différence quand on achète 30. Hein. Et que tu fais des sandwichs à
Et dis-moi
l'omelette ou...
qu'un type comme Leclerc qui vise dans le fond sur les gilets jaunes, quoi, c'est sa clientèle, c'est les gilets jaunes, j'imagine beaucoup, soit en train d'essayer de faire baisser les prix pour essayer de compenser la baisse du niveau de vie de ces gars-là, c'est un signe indicatif que ça va pas du tout. Parce que normalement, il ne devrait pas se préoccuper de ça, mais ça veut dire qu'il doit avoir des remontées en disant mais nos chiffres d'affaires sont en train de s'écrouler, quoi.
Et surtout sur, entre guillemets, la belle consommation. Et donc...
Ah ça, je l'ai vu aussi dans le sud-est, puisque tu parles de dans le sud-est, enfin dans le Montfavet. Quand j'allais justement chez Édouard Leclerc ou Auchan il y a 15 ou 20 ans, le rayon vin, il y avait des vins qui étaient très bien là-bas. Et maintenant, il n'y en a plus.
Oui, non, mais tu le vois au rayon viande aussi, parce que tu retrouves plus les jolis
Ils
morceaux.
vont partir.
Oui, ils vont partir. Je sais pas où ils vont, mais
Ils vont à l'Élysée.
voilà. Et il y a beaucoup, c'est vrai, les hydrocarbures, le pain, et puis on le voit aussi le développement des sections à tout petit prix
Ah oui,
dans
tout petit prix,
les.
oui.
Voilà. Donc, écoutez,
Donc,
c'était pas une émission très
ça va très bien, mais ce
réjouissante.
qui est certain, c'est qu'on va vers une crise énergétique importante et que les gouvernements, n'ayant rien préparé, vont certainement augmenter la contrainte une fois encore.
Oui.
Ils n'ont pas d'autre solution.
Moi, ce qui me fait très peur, encore une fois, c'est cette perte de liberté qu'on est en train
Ah
de
ben ça, c'est
constater
commencé.
aujourd'hui, avec justement le passe vaccinal qui est une atteinte aux libertés, et ne se demander si ça pourrait pas être les prémices de quelque chose
Bah,
d'autre
derrière le passe vaccinal, il y a le passe
énergétique
énergétique pour se
ou
balader.
le crédit social. Et ça, je pense que on peut légitimement se poser la question et ne pas se la poser,
Et surtout,
c'est...
si on ne se la pose pas, il ne faudra pas gueuler quand on vous dira, vous direz pas, le gouvernement n'avait pas le choix. Si, il aurait pu démissionner, organiser des élections et qu'on trouve d'autres solutions. Il y a des solutions.
Bon, en tout cas, bonne nouvelle, l'Espagne, l'Angleterre ont l'air de sortir de cette histoire de passe vaccinal,
Ce qui
eux.
est, ce qui veut dire que là aussi, il y a les...
Donc, dans des pays où visiblement les libertés sont un peu plus écoutées, des choses se défont. Donc, espérons que ça crée des mouvances dans ce sens-là pour
Voilà, je
notre
suis tout à
pays.
fait d'accord avec toi. C'est la bonne
Je
nouvelle.
crois encore dans le pays, enfin
On
en
voit pas
Angleterre, ils ont.
ce qui peut maintenant permettre au gouvernement français de renforcer le passe vaccinal alors que l'Angleterre et l'Espagne l'abandonnent.
Voilà.
Qu'est-ce qu'ils savent, l'Angleterre et l'Espagne, que nous ne savons pas ou le contraire?
Voilà. Sur ce, écoutez, j'espère qu'on ne vous aura pas trop mis le moral à zéro. La
La semaine
semaine
prochaine, les
prochaine,
marchés financiers.
voilà, enfin, les marchés financiers, on vous a déjà fait un tuto, entre guillemets, sur les
D'énergie.
marchés, mais on va essayer de parler de ce qui se passe en ce moment en corrélation avec l'énergie sur les marchés financiers, parce qu'effectivement,
Et de l'évolution à prévoir.
voilà, les évolutions à prévoir et les actions sont très très hautes et on se retrouve avec des sortes
Certaines
de
actions sont très très
certaines
hautes, mais
voilà et
d'autres.
avec des effets plus l'injection monétaire que des banques centrales qui vont créer cette inflation parce qu'encore une fois, comme disait Milton Friedman, l'inflation c'est jamais que une démanipulation monétaire. Et
Et
voilà.
il faut jamais oublier, si vous voulez, que les banques centrales, elles peuvent imprimer tout ce qu'elles veulent, mais elles ne peuvent pas imprimer du pétrole.
Voilà, donc on est mal. Écoutez, j'espère à la semaine prochaine. Et puis, il a été très sage, donc on le félicite. Bravo. Et merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Merci de votre fidélité. À bientôt.